Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau podcast animé par l'équipe Data Protection de TNP Consultants. Nous allons aujourd'hui vous parler des véhicules connectés qui ont leur propre écosystème numérique grâce à une connexion dédiée. Les fabricants de ces véhicules leur intègrent de plus en plus d'applications interactives ou de technologies comme par exemple la biométrie avec des capteurs d'empreintes digitales, la reconnaissance faciale ou plus récemment la mise en œuvre de passkeys. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, les véhicules connectés peuvent carrément remplacer la simplicité plug and play de nos smartphones. On estime que d'ici 2030, 95% des véhicules seront connectés et cela pose de sérieux défis en matière de protection des données. En septembre 2023, une étude de la Fondation Mozilla a bien pointé du doigt ces difficultés en qualifiant les voitures de la pire catégorie de produits en matière de protection de la vie privée. Pour discuter de ce sujet, je suis accompagnée de Yumna, consultante comme moi au sein de TNP Consultants. Bonjour Yumna.
Bonjour Céline et bonjour à tous les auditeurs.
Avant d'entrer dans le fond du sujet, il est important de comprendre ce qu'est un véhicule connecté. C'est un véhicule équipé de technologies permettant une communication Internet en temps réel et donc un partage d'informations avec d'autres appareils, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule. Maintenant, pour qu'un véhicule soit connecté, les principaux constructeurs automobiles y intègrent différentes technologies. On a par exemple la télématique qui permet de situer la localisation et l'activité du véhicule, ou même d'établir son diagnostic de performance. D'ailleurs, on voit de plus en plus de véhicules aujourd'hui avec des boîtiers télématiques directement embarqués. Et pour les entreprises, c'est pratique. Grâce à une plateforme de gestion de flotte, elles peuvent garder un œil sur comment leurs véhicules sont utilisés grâce à la télématique. Il y a aussi des technologies qui visent à améliorer la sécurité et à gérer le trafic, comme le protocole dit véhicule à tout, V2X, qui permet d'interagir sur la route avec d'autres objets, que ce soit un autre véhicule, un piéton ou une infrastructure routière. Et puis, un véhicule connecté peut également intégrer un système dit divertissement qui permet d'avoir des contenus audio ou vidéo. Par exemple, Ono a créé récemment dans les nouvelles Mégane e-tech une interface d'infodivertissement nommée Open AirLink et qui permet pour la toute première fois d'intégrer dans un véhicule l'application sportive L'Équipe.
Mais je pense, Céline, qu'il faut être un peu plus clair. Un véhicule connecté ne veut pas dire forcément véhicule autonome, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait, Yumna. En fait, un véhicule autonome est lui aussi connecté, mais il peut contrôler ses propres mouvements et il ne nécessite pas d'intervention du conducteur.
Oui, absolument. En fait, avec l'essor des véhicules connectés, on voit que de plus en plus de services innovants et même personnalisés sont proposés aux utilisateurs de véhicules, comme la maintenance proactive ou même le rechargement à distance des batteries. Mais on comprend bien que tous ces services ne peuvent pas fonctionner sans la collecte de données à caractère personnel, que ce soit des conducteurs ou même des passagers d'un véhicule.
Oui, tu as tout à fait raison. Et même indirectement, les données générées par les véhicules peuvent être des données à caractère personnel. Par exemple, si un véhicule enregistre le détail des trajets que tu fais, on peut facilement déduire ton lieu de domicile ou les endroits spécifiques que tu fréquentes, comme ça pourrait être des lieux de culte, par exemple.
Oui, tout à fait. Donc, si je comprends bien, un véhicule connecté peut alors collecter des données sensibles ou à caractère hautement personnel.
Exactement. Pour te donner un exemple, l'étude de la Fondation Mozilla a révélé que la marque Nissan, dans sa politique de confidentialité sur son site Internet, indiquer pouvoir collecter des informations sur les personnes comme leur patrimoine génétique, leur activité sexuelle, établir un diagnostic sur leur état de santé ou encore déduire leur intelligence au travers des véhicules connectés. En plus de ça, les véhicules peuvent aussi indirectement collecter des données en lien avec des infractions puisqu'ils sont en mesure d'enregistrer si des excès de vitesse sont réalisés. Et il faut également aussi avoir en tête que les véhicules connectés peuvent enregistrer des conversations audio et sont donc susceptibles d'enregistrer l'ensemble de vos conversations personnelles à l'intérieur du véhicule.
Mais en vrai, il existe aussi aujourd'hui des systèmes de contrôle des conducteurs, n'est-ce pas?
Oui, il y a par exemple Carnet de Volkswagen qui offre des fonctionnalités permettant de surveiller notamment les jeunes conducteurs. Donc, en fait, leurs parents peuvent, au travers de Carnet, définir des alertes dites alerte limite ou alerte couvre-feu pour vérifier les zones où ces jeunes conducteurs se rendent et l'heure à laquelle ils y sont. On peut aussi aujourd'hui partager les clés du véhicule par SMS. Ce qui permet de les transmettre facilement à une autre personne. Et lorsque cette personne utilise le véhicule, il est alors possible de limiter à distance sa vitesse, le volume de la stéréo qu'elle utilise ou savoir exactement où est cette personne.
Et avec tous ces nouveaux services, Céline, je suppose qu'une multitude d'acteurs peuvent aujourd'hui avoir accès à des données générées par un véhicule.
Absolument, grâce à toutes les interfaces possibles, de nombreux destinataires ont accès à ces données. Et selon la fondation Mozilla, plus de la moitié des constructeurs automobiles ont d'ailleurs indiqué partager des informations sur les conducteurs avec de nombreux tiers. On retrouve parmi les destinataires cités des fournisseurs de services, des courtiers en données, des loueurs ou des vendeurs de voitures, des assureurs et même des organismes gouvernementaux où les forces de l'ordre ont été citées.
Et Céline, peux-tu nous donner des exemples spécifiques sur certains constructeurs automobiles?
Oui, bien sûr. Prenons Audi par exemple. Dans sa politique de confidentialité, Audi a indiqué que les données peuvent être partagées à l'ensemble des familles d'entreprises du groupe Volkswagen, mais aussi leurs concessionnaires, ainsi que tous les fournisseurs de contenu de l'application Audi Connect. Nissan, de son côté, indique qu'à des fins de marketing, les données peuvent être vendues et partagées pour, je cite, créer un profil sur un consommateur qui reflèterait ses préférences, ses tendances psychologiques, ses prédispositions, ses comportements, ses attitudes, son intelligence, capacité, aptitude, mais sans donner plus de précision sur qui seront les destinataires réels de ces profils établis. Et pour vous donner un dernier exemple, et toujours selon la fondation Mozilla, Tesla a indiqué que des enregistrements vidéo provenant de véhicules à l'arrêt de la marque ont circulé chez le constructeur et permettaient d'identifier des personnes.
Et Céline, il me semble important de parler dans ce podcast de la géolocalisation. En fait, la géolocalisation, elle consiste à déterminer la position géographique d'un objet ou même d'une personne à l'aide de technologies telles que le GPS ou les antennes de téléphonie mobile. Et avec le caractère intrusif de cette technologie pour les personnes, il y a vraiment un enjeu majeur en matière de protection des données, vu que certains acteurs collectent la localisation d'une personne utilisant un véhicule en temps réel. Et d'ailleurs, la CNIL a récemment sanctionné une entreprise de location de scooters en libre-service sur ce sujet. Tu nous en dire plus sur cette sanction?
Oui, bien sûr, Yumna. La CNIL a sanctionné effectivement une société dénommée CityScoot d'une amende de 125 000 euros. Elle lui a reproché plusieurs manquements au RGPD et dont notamment un manquement à l'obligation de minimiser les données. En fait, la CNIL a constaté que CityScoot collectait et conservait les données de géolocalisation des scooters toutes les 30 secondes, ce qui pour la CNIL n'était pas nécessaire pour la société.
Donc, si je comprends bien, la collecte de ces données de géolocalisation reste possible, mais il faut trouver un équilibre entre ce qui est strictement nécessaire à la fourniture du service et le respect des droits et des libertés des personnes concernées. Par exemple, pour des entreprises de location de véhicules, il peut leur être particulièrement utile de pouvoir activer la géolocalisation en cas de vol d'un véhicule, pour le retrouver.
Oui, exactement. Il faut préciser que, à ce titre, que la CNIL a créé un club de la conformité dédié aux véhicules connectés et aux applications liées à la mobilité en 2023. Et les membres de ce club ont rappelé que les données de géolocalisation sont essentielles pour les services de mobilité. Prenons l'exemple concret de la lutte contre le vol de véhicules, comme tu l'as évoqué, Yumna. où l'utilisation des données de géolocalisation peut s'avérer indispensable. Les acteurs de ce club indiquent qu'anonymiser les données de géolocalisation diminuerait les chances de retrouver un véhicule volé. Donc, pour préserver quand même la vie privée des personnes, certains mécanismes peuvent être mis en place. Comme par exemple, on peut activer le boîtier de géolocalisation sur un véhicule uniquement après deux mises en demeure restées infructueuses de restituer le véhicule loué.
Merci Céline. J'imagine donc que les données générées peuvent être utilisées pour d'autres finalités que le vol.
Tu as raison. On en a déjà évoqué certaines, mais également, par exemple, l'assistance en cas de panne ou d'accident, l'efficacité des transports ou la lutte contre la fraude. Depuis 2018, par exemple, les véhicules en Europe doivent avoir un système embarqué dénommé eCall qui permet d'appeler automatiquement les secours en cas d'accident grave.
En fait, Céline, il y a également un point important que nous n'avons pas encore abordé et c'est la base légale du traitement, surtout compte tenu de toutes ses finalités. En fait, on a vraiment souvent tendance à penser au consentement, surtout quand on parle de géolocalisation. Mais peux-tu nous expliquer comment le consentement pourrait être géré, étant donné la multitude d'acteurs impliqués et par quels moyens?
C'est une question très intéressante. La gestion du consentement est particulièrement complexe dans le cas des véhicules connectés, puisque les conducteurs, mais aussi les passagers, ne sont pas toujours au courant des traitements de données réalisés lors de l'utilisation de leur véhicule. En fait, oui, tous les capteurs, les microphones, les caméras, les téléphones, les applications et services connectés à bord des véhicules génèrent tous des données. Mais souvent, les personnes n'en ont pas conscience. Et donc, par exemple, l'enregistrement audio dans le véhicule ou la géolocalisation sont activés d'emblée. Et compte tenu du fait que le véhicule ait une technologie particulière, il est difficile de s'assurer que le consentement présente tous les éléments de validité requis par le RGPD, à savoir un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque, et qui peut être tiré facilement à tout moment. Quand j'ai dit véhicule, je parlais bien sûr véhicule connecté. Et certains constructeurs automobiles ont tendance à considérer que le consentement des utilisateurs est implicite et que ces derniers, à partir du moment où ils ont accepté en fait de s'installer dans l'habitacle du véhicule, donc que ce soit le conducteur mais aussi les passagers, ont accepté que leurs données personnelles soient utilisées.
Donc, je comprends que certains constructeurs considèrent que dès qu'une personne s'installe dans l'habitacle du véhicule, tu donnes automatiquement ton accord pour qu'ils utilisent tes données personnelles.
Exactement. Subaru, par exemple, semble partir de ce principe, comme l'a révélé l'étude de la fondation Mozilla. C'est un peu surprenant, surtout comme on l'a évoqué précédemment, d'autres constructeurs mentionnent dans leur politique qu'ils peuvent collecter des données particulièrement sensibles, ce qui devrait donc requérir un consentement explicite des utilisateurs pour se conformer aux dispositions du RGPD.
C'est vraiment étonnant que certains constructeurs ne demandent pas un consentement explicite, surtout pour des données sensibles. Mais Céline, y a-t-il d'autres moyens pour essayer d'avoir l'accord des personnes?
Oui, Yomna, effectivement, il y en a d'autres. Alors, les autorités de protection des données des pays européens encouragent les constructeurs de véhicules et d'équipements à mettre en place des options de désactivation faciles à utiliser, notamment pour avoir l'accord ou pas des personnes. Et il faut aussi ne pas oublier que les lignes directrices du Comité européen sur la protection des données rappelle qu'il n'est pas toujours nécessaire de demander le consentement, conformément à l'article 5, paragraphe 3 de la directive vie privée et communication électronique, si les données sont traitées dans le cadre d'un service que l'utilisateur du véhicule a expressément demandé, comme par exemple une inscription à une application de location et de réservation d'emplacement de stationnement.
En fait, Céline, peut-on légitimement utiliser les données des véhicules pour des finalités ultérieures? Comme par exemple dans le cadre d'un partenariat entre une assurance et l'AA qui a servi à cibler des consommateurs envisageant l'achat d'un véhicule dans les 6 prochains mois. Est-ce que le simple fait de ne rien avoir désactivé suffit à rendre ce traitement légitime?
Eh bien non, le CEPD précise qu'un consentement initial ne peut jamais légitimer la réalisation d'un traitement ultérieur et c'est la raison pour laquelle les acteurs du secteur doivent être particulièrement vigilants sur toute la chaîne du consentement.
Je crois que les acteurs du club conformité ont aussi proposé d'autres bases légales que le consentement en fonction bien sûr des finalités.
C'est vrai. Par exemple, le traitement peut être justifié par l'exécution d'un contrat pour des services comme la lutte contre le vol, l'assistance routière et le dépannage des personnes, ou peut être justifié également par l'intérêt légitime pour des activités telles que la lutte contre la fraude ou la gestion de la flotte de véhicules. Il sera donc important de suivre les conclusions qui seront tirées de ce club conformité, puisqu'elles seront source d'éclairage sur de nombreux points.
Et oui, et pour continuer aussi les lignes directrices du CEPD sur les véhicules connectés fournissent des recommandations importantes sur la manière d'informer les personnes concernées. En fait, le CEPD rappelle que l'information des personnes peut se faire en deux niveaux, avec un premier niveau sur les informations essentielles, comme qui est le responsable du traitement ou quelles sont les finalités, et ensuite un second niveau qui est plus détaillé. Et en fait, dans le contexte des véhicules connectés, le CEPD recommande d'être vraiment précis. Par exemple, pour la lutte contre le vol, il est important de préciser que la géolocalisation ne s'active qu'en cas de la déclaration de vol et non pas pour un suivi constant. Or, Céline, sur la forme, les personnes peuvent être informées via des clauses claires dans le contrat de véhicule ou même d'autres supports écrits comme le carnet d'entretien ou le manuel du véhicule. Mais bien sûr, il est difficile de garantir que tout le monde lira toutes les clauses du contrat.
C'est vrai, et c'est pourquoi l'ajout d'icônes normalisées et visibles dans les véhicules est crucial pour offrir une vue d'ensemble dès qu'un traitement de données s'active. D'ailleurs, le CEPD rappelle aux constructeurs de véhicules l'importance d'harmoniser ces icônes et d'utiliser les mêmes symboles pour tous les modèles et toutes les marques de véhicules.
Il est aussi essentiel que les personnes soient informées des traitements réalisés par tous les acteurs susceptibles d'intervenir. À ce sujet-là, le CEPD rappelle qu'il peut être nécessaire de fournir de nouvelles informations lorsque les personnes concernées sont prises en charge par un nouveau responsable de traitement. Par exemple, un service d'assistance routière peut être fourni par différents responsables de traitement, en fonction du pays ou même de la région où l'assistance est demandée. Mais bien sûr, pour plus de détails, nous vous recommandons de consulter ces lignes directrices, car elles constituent une référence essentielle pour tous les acteurs du secteur.
Oui, et je préciserai aussi que oui, effectivement, il est important d'être vraiment précis sur l'information des personnes afin qu'elles soient bien informées des différents acteurs auxquels sont transmises les données et quelles données leur sont transmises. Or, dans son étude, la Fondation Mozilla a soulevé que dans de nombreuses politiques de confidentialité de constructeurs automobiles, souvent, beaucoup de termes vagues étaient utilisés, tels que par exemple ou notamment, ce qui est contraire au principe de transparence exigé par le RGPD et le CEPD suggère également d'éviter ce genre de termes dans ses lignes directrices.
Et Céline, tu ne nous as pas encore parlé de la sécurité des données personnelles, surtout que c'est une exigence essentielle du RGPD et particulièrement importante dans le contexte des véhicules connectés.
Oui, c'est vrai. En fait, les cyberattaques dans le secteur automobile ont considérablement augmenté ces dernières années, comme le rapport d'Upstream de 2024 le montre. Pour donner deux exemples de cyberattaques récentes, en juin 2023, un chercheur en sécurité a découvert une base de données contenant des millions de logs ainsi que des noms, des adresses, des téléphones de personnes qui étaient collectées au travers d'un réseau de milliers en fait, de bornes rechargeables. Autre exemple, en 2021, le groupe Audi a annoncé une violation de données qui a entraîné la compromission de données de 3,3 millions d'utilisateurs, puis leur mise en vente par des pirates informatiques, ce qui a donné lieu à un règlement de recours collectif de 3,5 millions de dollars.
Les principales menaces en matière de sécurité des données dans le contexte des véhicules connectés comprennent, comme tu l'as évoqué, Céline, les cyberattaques visant à intercepter, modifier, supprimer les données des véhicules, voire même à prendre le contrôle de leur système. Puis il y a aussi le risque d'avoir des violations de la confidentialité des données résultant d'une mauvaise gestion des identifiants de sécurité. Mais peux-tu nous dire, Céline, s'il existe des recommandations en matière de sécurité?
Alors oui, il y en a. Tout d'abord, l'ANSSI a publié des recommandations sur la sécurité des véhicules connectés dans son guide sur les objets connectés publié en juillet 2021. Il y a également les lignes directrices du CEPD sur les véhicules connectés qui recommandent toute une série de mesures de sécurité qui sont à la fois générales et ils listent également des mesures de sécurité spécifiques pour les constructeurs automobiles. Donc, par exemple, les fabricants de véhicules et les entreprises de technologie doivent notamment mettre en place des mesures de protection des données robustes, telles que le chiffrement des données de géolocalisation, l'authentification forte des utilisateurs ou encore la détection d'anomalies. Et ces lignes directrices rappellent l'importance du respect du privacy by design et by default pour les constructeurs qui doivent notamment concevoir leurs produits de manière à intégrer la sécurité dès leur conception. Et il est également possible de se référer au guide de bonnes pratiques sur la sécurité des véhicules connectés qui a été élaboré en 2019 par l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité, dont l'acronyme est l'ENISA.
Justement, tu sais, récemment, l'administration Biden-Harris a pris des mesures pour protéger l'industrie automobile américaine des risques liés aux véhicules, surtout ceux provenant de la Chine. Cette initiative, elle met en fait l'accent sur l'importance de la sécurité nationale dans un contexte où les données des utilisateurs sont de plus en plus exposées à des risques de collecte et aussi d'utilisation malveillante. En fait, le département du commerce va enquêter là-dessus, va évaluer ces risques et même va envisager des réglementations appropriées. Et cette démarche-là inclut aussi la publication d'un avis avancé de propositions de réglementation qu'on nomme ANPRM pour vraiment étudier les risques liés aux véhicules connectés provenant de pays préoccupants. Et dans le cadre de cette enquête-là, le département du commerce recueillera des informations auprès de l'industrie et même du public sur la nature de ces risques et sur les, bien sûr, les mesures potentielles qui pourraient être prises pour les atténuer.
C'est bon à savoir comme information. Merci Yumna. Et je voulais aussi préciser que de plus en plus d'efforts sont aussi déployés par les constructeurs automobiles pour établir des normes d'interopérabilité des données. Ces normes visent à harmoniser les différents systèmes et équipements, ce qui facilite l'échange de données de manière cohérente et sécurisée entre les différents acteurs de l'écosystème automobile, que ce soit les fabricants ou les fournisseurs de services et de technologies. Par exemple, il y a le consortium OmniAir qui regroupe de nombreux acteurs, parmi lesquels on peut citer Panasonic ou LG, et qui travaille pour promouvoir le déploiement de technologies interopérables comme le dispositif de véhicules Atout V2X, comme on a évoqué tout à l'heure.
Et Céline, pour finir, il est pertinent aussi de mentionner l'entrée en vigueur du règlement européen sur les données, le Data Act, depuis le 27 janvier 2024, ayant une incidence sur l'industrie automobile. Ce règlement accorde aux individus un droit d'accès et de portabilité sur les données d'utilisation générées par un objet connecté, y compris les données personnelles et non personnelles. Et les utilisateurs auront la possibilité de recourir à des tiers de leur choix pour la maintenance de l'objet connecté. Donc, en gros, les acteurs du secteur automobile doivent vraiment veiller à se conformer aux autres réglementations européennes qui ont émergé ou sont en train d'émerger depuis quelques mois et prendre en compte ces nouvelles obligations dans la conception de leurs produits.
Absolument. Et il est donc important que les acteurs du secteur restent à jour avec ces nouvelles réglementations pour garantir la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs.
Eh bien, nous arrivons au terme de ce podcast et nous espérons que ce dernier vous a permis de comprendre un peu plus les enjeux en matière de protection des données pour les véhicules connectés. Merci beaucoup Céline pour ta participation.
Merci à toi également Yumna et bien évidemment merci à tous nos auditeurs pour votre écoute. À bientôt pour un nouveau podcast.